Utopod 038, 30 janvier 2010, Astrolabe de Xavier Montméjean. Bonjour à tous et bienvenue dans Utopod. Aujourd'hui, la mission retourne aux sources avec une nouvelle de son tout premier auteur, Xavier Montméjean. Le texte présenté dans cet épisode s'intitule Astrolabe et figure au sommaire d'Icar 2004, anthologie parue fin 2003 chez l'éditeur français Mnemos sous la direction de Richard Comballo. Xavier Montméjean est né en 1963 en France, il est professeur de philosophie au lycée. Essayiste, romancier, nouvelliste, il dirige la collection jeunesse Royaume perdu chez Mango et œuvre comme auteur de pièces radiophoniques pour France Culture. Nom incontournable de la science-fiction francophone contemporaine, Xavier a remporté de nombreuses distinctions littéraires, notamment le prix Rony Aîné pour ses romans La Vénus anatomique et Lilliputia. Passionné d'histoire, il a récemment signé chez Flammarion « La Reine des Lumières », récit uchronique dont le point de rupture se situe à l'époque d'Alexandre le Grand. Le lecteur, ingénieur du son, monteur, compositeur, chanteur et créateur audio du jour n'est autre que Sylvain Demière, entité protéiforme de la constellation Utopod. Je profite de l'occasion pour le remercier chaleureusement, pas seulement pour sa superbe prestation sur Astrolabe, mais pour son soutien, sa fidélité et son talent jamais démenti depuis les premiers jours de l'émission. Et maintenant, cap sur les mélodies manga des années 80, activez vos zygomatiques et place à la littérature.
Astrolabe de Xavier Montméjean. John Barnes était prisonnier du vol Delta Airlines reliant Newark à Los Angeles, coincé entre deux sphères célestes. Le hublot et une rotondité joviale coiffée d'un toupet qui enseignait la philosophie médiévale à Columbia University. John avait eu le malheur de répondre à son bonjour peu après le décollage, et depuis, l'homme lui farcissait la tête de carabistouilles moyenâgeuses. Ne pouvant suivre le film, ses écouteurs ne fonctionnaient pas, il patientait en descendant des mignonnettes. Mieux valait boire pour oublier son passé d'écrivain, l'avenir de scénariste chômeur qui l'attendait en bout de ligne et ses velléités présentes de tueur alcoolique si son voisin ne consentait pas à la boucler. John s'apprêtait à déboucher un petit flacon pansu de vodka post-communiste lorsque le spécialiste lâcha
« Et c'est alors qu'ils ont eu leur fils. »«
Qui donc ?»«
Eh bien, Héloïse et Abélard, quand ce dernier est allé vivre chez Fulbert, l'oncle de la jeune femme. »«
Mais vous ne m'aviez pas dit qu'Abélard était un genre de curé ?» Le professeur gloussa en croisant les mains sur son ventre replet.
« Quelque chose comme cela, en effet. » Un philosophe nominaliste qui avait fait vœu de chasteté. Fulbert l'a d'ailleurs puni par où il avait péché. Clic-clac!
Vous voulez dire que...
Précisément. Le couple a ensuite été contraint de fuir en Bretagne avant d'abandonner l'enfant. C'est alors que l'on perd la trace d'Astrolabe.
Astrolabe? Et pourquoi pas boussole ou télescope? Des maris orphelins avec un prénom pareil, le gamin avait dû sacrément déconner dans une vie précédente. La mine pontifiante, l'universitaire agita son index.
« Mais pas du tout, jeune homme! Souvenez-vous que ses parents étaient d'éminents savants. En l'appelant Astrolabe, il lui rendait honneur. Qui sait ce que le pauvre garçon serait devenu en d'autres circonstances ?»
Effectivement. Pour la première fois depuis longtemps, John Barnes tenait quelque chose. Un flash d'inspiration qui, dispersant l'engourdissement bienheureux de l'alcool, électrisa son cortex. Le romancier réclama de quoi écrire à l'hôtesse et, tandis que son voisin dépiautait des pistaches, rédigea quelques notes sur le papier à en-tête de la compagnie. Parvenu à destination, John descendit 4 expressos au bar du terminal avant de s'engouffrer dans un taxi, direction Animatroland. Immédiatement, la vision d'une blonde à gros nichons montée sur roller s'imposa à son esprit, comme un certificat de bienvenue délivré par Los Angeles. Il refoula cette image parasitaire, lui qui, trop longtemps, n'avait été qu'un parasite, le poids mort de la science-fiction. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé. Barnes avait collaboré à IF et Galaxy, casant même un texte dans une anthologie qui avait fini au pilon et tenté l'aventure de Playboy. Deux robots descendus au pistolet laser entre la bunny du mois et une interview de Kissinger. Mieux, il avait cru une année décrocher le prix Hugo avec son roman « Les télépathes du dernier jour ». Mais un maître de l'introspection l'avait raflé à sa place. Dick ou Silverberg, il ne se souvenait plus. La jalousie a des vertus amnésiques. Cette fois-ci, il saisirait sa chance. John se concentra sur l'essentiel tandis que le chauffeur égrenait les noms des stars demeurant à Beverly Hills. Il noircit quelques feuilles, traça quelques lignes sur le rabat d'une boîte d'allumettes et faucha même la licence du taxi glissée sous plastique. John Barnes se présenta au poste d'entrée d'Animatroland. Le garde lui remit un badge qui lui donnait accès au studio. Empruntant l'ascenseur, l'écrivain se prépara à l'épreuve. La boîte ne lui passerait pas un nouvel impair. Barnes devait prouver qu'il valait mieux que quelques synopsis avortés. Sa vitalité créatrice n'éclaboussait pas les seules pages glacées de Playboy. En un mot, il devait convaincre Dary Leland. Tout le monde connaît le créateur de Gertie Levert, 12 Oscars pour ses dessins animés, propriétaire de studios et de parcs d'attractions. Un sondage l'avait désigné comme la célébrité susceptible de remplacer George Washington sur les billets $1, juste avant Gertie. Le père du lombric facétieux siégeait en bout d'une immense table de conférence, entouré par son staff d'exécutifs. « Je vous en prie, John, asseyez-vous !» Une assistante lui servit d'office un verre d'eau minérale française avant de se retirer. Caressant sa fine moustache, le fondateur d'Animatroland s'adressa à l'assemblée. « Le récent succès des productions japonaises a sérieusement entamé notre part de marché. Il nous faut définir une politique originale. Accoucher de nouveaux concepts. » La meute de Leland acquiesça. « J'aimerais que nous retrouvions l'esprit poétique de nos débuts. »«
Cool, patron. Du genre Simon and Garfunkel ?»
Daryl Leland foudroya du regard l'important en costume Armani. Le mogul des studios n'aimait pas qu'on lui rappelât son âge. Il se reprit et s'adressa à Barnes.
« Prouvez-nous, John, que votre place est ici. »
Toutes les têtes convergèrent dans sa direction. Le scénariste tira un feuillet froissé.
« Voilà, c'est un petit garçon qui vient d'ailleurs, et il a des pouvoirs. »
Un créatif cocaïné l'interrompit aussitôt.
« Ça a déjà été fait, et ça s'appelle Superman !»
Quelques barracudas s'esclaffèrent.
« Laissez-le finir !»
ordonna Daryl Leland. Main poissée de sueur, vision troublée par le stress, John ne parvenait pas à déchiffrer ses notes. Le staff s'impatientait. Jouant son va-tout, Barnes décida d'improviser.
« Il se trouve dans un pays. »«
C'est bien, John. Vraiment bien. Ainsi, les personnages du dessin animé n'évolueront pas dans un décor blanc. »«
Mr. Leland. »
« Daryl. »«
Ce n'est pas n'importe quel endroit, Daryl, mais la contrée. »
Le père du lombric haussa un sourcil, signe d'un authentique intérêt.
« Comme le bourg-mignon de Gertie ?»«
Je n'y avais pas pensé. Il faut croire que vous m'influencez. »
D'un seul mouvement, les exécutifs hochèrent la tête comme des chiens sur la lunette arrière du bolide Animatroland. Il prenait la bonne voie. Barnes poursuivit tant bien que mal, bricolant les détails en fonction des réactions. Un lourd silence succéda à l'exposé. Leland repoussa son fauteuil design et prit appui sur la table. Chacun pouvait voir qu'il tremblait. Le créateur de Gertie afficha un sourire béat et déclara
« On le fait !»
Dieu ayant parlé, les apôtres s'agitèrent.
« Putain, John, c'est puissant ! Carrément génial !
Tu me colles la barre, mec !»
John Barnes suivait sans comprendre, tandis que les cadres lui pressaient l'épaule ou lui en claquaient cinq. Le fondateur des studios imposa le silence.
« La pré-production démarre aujourd'hui. Budget illimité. Animatroland joue son va-tout sur ce projet. N'ayez crainte, John, nous allons soigner Astrolab. »
Ils avaient engagé les meilleurs. ILM se chargeait des effets spéciaux, tandis que Ryuichi Sakamoto composait la musique. Le pape de la technopop nippon envoyait ses bandes démos par fichier téléchargeable directement sur un site sécurisé. Rien moins que Dan Stuff assurait les dessins. Vivant en reclus depuis le milieu des années 80, il ne daignait plus produire, refusant les ponts d'or de Marvel ou DC.
Ses fans s'arrachaient l'unique numéro du comic auto-édité qui l'avait rendu célèbre et sa pochette de Mother, l'album mythique de Sepultura. Personne n'espérait son accord jusqu'à ce qu'un stagiaire parvienne à le convaincre. Le graphiste culte avait écouté en vidéoconférence le récit d'Astrolabe avant de lâcher un « je mouille » qui tenait lieu de contrat. L'assistant avait été immédiatement bombardé directeur de département. Sous le crayon de Dan Stuff, Astrolabe était promis au succès. Les croquis du gourou parvenaient au studio par fourgon blindé avant d'être confiés à une équipe d'animateurs placés sous surveillance. La sécurité maximale autour du dessin animé était assurée par une armée d'avocats. Une famille nombreuse entourait aujourd'hui l'orphelin des étoiles. La première eut lieu au Chinese Theater sur Hollywood Boulevard. L'histoire était la suivante, comme l'indiquait un dossier de presse guerre avare en majuscule. Astrolabe, qui venait d'ailleurs, était recueilli par un brave couple de paysans. Ils l'élevaient avec amour jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans. Il devait alors se soumettre, comme tous les garçons de la contrée, à l'épreuve du gant de la main. En fait, une simple mitaine, puisque les doigts symbolisant l'alliance en avaient été arrachés, à l'exception du majeur, figure d'équilibre. Contre toute attente, Astrolabe parvenait à enfiler la chose et était immédiatement désigné comme l'élu. Alors, secondé par le sage Galder l'Enchanteur, il partait en quête des doigts manquants pour permettre à la princesse Rubia de recouvrer sa couronne. Las, l'ignoble Hordoc ne l'entendait pas de cette oreille. Le duc de la stratosphère lâchait sur Astrolabe ses légions de l'informe. Après moult péripéties, le garçon parvenait finalement à vaincre grâce à sa cape d'invulnérabilité et rétablissait la princesse qui siégeait dès lors à la table des certitudes. John attendit la fin de la projection à l'extérieur de la salle, conscient que son avenir se jouait. Ce fut un succès fracassant. Les gens pleuraient, debout sur les fauteuils, en chantant le refrain du générique sur fond de chœur orgasmique et de carillon cristallin.
Astrolabe, tu es sorti de ton laboratoire à l'état de prototype. Astrolabe, tu traverses l'univers d'acier et de verre, tel est ton génotype.
Trop affecté par la détresse de Rubia, un spectateur mourut d'une crise cardiaque, contribuant ainsi à la promotion. La presse, générale ou spécialisée, encensa le film. Le critique du New York Times parla d'archétypes simples qui résonnent dans l'inconscient collectif. Celui du Los Angeles Weekly se limita à un « putain de bon film ». Seul le rédacteur de Variety chercha à se singulariser en déclarant « ça manque de nains ». Daryl Leland s'arrangea pour le faire renvoyer. Dès son premier week-end d'exploitation, la dernière production Animatroland défonça les box-office comme jamais dans l'histoire du cinéma. L'exploitation en DVD et les produits dérivés assurèrent la fortune des studios et celle de John Barnes. Dépassé par les événements, après des années d'écriture, il avait obtenu la gloire en jetant 3 fadaises sur le papier. Le créateur d'Astrolabe se contentait d'encaisser les chèques pour vider aussitôt son compte en alcool fort et voitures de luxe. Comme il était incapable de rédiger la suite du blockbuster, d'autres l'écrivirent en signant de son nom. John se vendit ainsi au studio, cher et sans que cet arrangement lui donne l'impression de faire la pute ou du moins de se faire emmancher. Tout se déroula à merveille jusqu'à l'inauguration du parc. Le bourg mignon couvrait une surface de 300 hectares à l'extérieur de la ville. On avait même tracé une voie rapide pour relier l'attraction à Los Angeles. Le pays de Gertie éclipsait ses concurrents, du moins au début, jusqu'à ce que les enfants se lassent des pommes géantes pour leur préférer les poissons d'Aqualand. L'appât du verre ne fonctionnait plus, quoi qu'en dise Leland. Ce dernier, convaincu par le succès d'Astrolabe, avait débloqué des fonds pour la création d'un nouveau show. La contrée occupait en fait un bon quart du parc, expropriant les bestioles rebondies au profit des hordes de Hordoc. Ce qui ne changeait rien à la vie des employés. Ils continuaient de suer dans des costumes en vinyle et latex et affichaient un sourire peint au-dessus de leurs véritables yeux. La joie de Daryl Leland n'était pas feinte.
L'affluence ne cessait de croître depuis le matin. Une véritable transfusion d'argent frais, liquide comme un soda sucré. Il déambulait dans l'avenue de Galder l'Enchanteur en compagnie de John Barnes quand une fillette l'accosta.
« Dis, monsieur, tu pourrais donner ça à mon héros ?»
Elle brandissait une rose. Le fondateur d'Animatroland saisit le cadeau. « Je la lui remettrai, c'est promis. Gertie te remercie. » La gamine ravala un sanglot.
« Non, pas la grosse saucisse, Astrolabe !»
Le sourire de Leland laissa place à un tremblement qui agita sa moustache.
« Non, mais vous avez entendu cette petite pétasse ?»
Jetant la fleur sur les pavés synthétiques, il disparut dans la foule. Par la suite, Barnes data de ce jour le commencement des emmerdes. John avait traîné un temps à la Sci-Fi Con de Baltimore. Gros, déguisé en Mr. Spock, postillonnant les chips. Rôlistes acnéiques échangeant leur vie d'adolescent contre une immortalité de plateau. Étudiante en secrétariat se faisant tringler par un boyfriend transformé en barbare à coups de fantasme. Il les avait tous fréquentés, pleurnichant pour qu'ils achètent ses bouquins, car John Barnes était d'une autre trempe, un fameux écrivain. La célébrité de son quartier, jusqu'à ce qu'il se fende d'Astrolabe. Depuis, il n'avait plus assez de couilles pour faire autre chose que débourser en achats inutiles. Fuir. Un peu comme Abélard, l'autre papa du gamin. Stérile. Pas un mot sur son traitement de texte, juste assez de répartie pour annoncer un « je viendrai » en réponse aux invitations. John ferait donc de la promo, dédicaçant des affichettes ou barbouillant au marqueur la figure d'une poupée déjà collector. On ne lui demandait rien d'autre, et certainement pas d'expliquer Astrolabe, de réduire l'enfant des étoiles à un produit marketing. Les fans du gamin, composant l'essentiel du public cette année, tenaient John pour un vague parent du héros. Un type dans la confidence, en aucun cas le créateur. Les marmots gantés l'abreuvaient de questions. Oui, Astrolabe apprenait ses leçons. Galder l'Enchanteur y veillait. Non, il ne faisait pas de blagues avec sa cape d'invulnérabilité. Les séances s'étiraient en une éternité. Non tant des contes de fées où le même succède au même. Sourire, signature, tu payes à la caisse. John Barnes s'apprêtait à regagner sa chambre d'hôtel lorsqu'un type fondit sur le stand. Cheveux longs, regard fiévreux, il bouscula la voiture d'un hors-doc paraplégique, se planta face au scénariste et affirma
« Astrolabe est notre Seigneur Jésus-Christ qui revient sur Terre !»
John tourna la tête en direction de l'agent de sécurité. Trop occupé à draguer de princesse Rubia, il n'avait pas repéré l'illuminé. L'écrivain tenta de temporiser.
« C'est un point de vue ?»«
Non, mec, c'est le point de vue !»
L'individu arracha sa cagoule surmontée d'une hélice.
« Tu la reconnais ?»«
Bien sûr, c'est la coiffe d'Astrolabe. »
« Et de ses disciples ? Elle nous permet d'entrer directement en communion avec lui, sans craindre l'aura maléfique des légions de l'informe. » Et tu sais pourquoi ?
John commençait à se sentir mal à l'aise. Il répondit
« Parce qu'elle est fabriquée en Kevlar stellaire. J'ai inventé tout cela !»«
Faux, mon gars !»
dit l'allumé.
« Tu n'es que le porteur du message !»
Ce type parlait comme Charles Manson. L'écrivain lui demanda de dégager, mais l'homme s'exclama
« Pas avant d'avoir fait ce don à mes frères !»
Il plaqua sa main sur la table, tira un hachoir et l'abattit. Les doigts tombèrent sur la moquette à l'exception du majeur. « Symbole d'équilibre », affirma le cinglé. Durant les mois qui suivirent, John Barnes ne quitta plus sa villa bunker de Bel Air. Traumatisé, il suivait le phénomène à distance sur son écran ultra-plat. Les spécialistes disséquaient Astrolabe. Sociologue, thérapeute et philosophe voyaient en lui une incarnation du sacré, le réconfort d'une foi simple apaisant l'esprit. Il répondait à un besoin. Trop longtemps considéré comme un aveu de faiblesse par le nouvel ordre économique, la bonté était rétablie comme valeur. Astrolabe expliquait aux enfants du monde qu'ils devaient cultiver honneur et loyauté. Bien sûr, les parents suivirent. Et pas seulement eux. Chaque habitant de la planète pouvait quitter son quotidien étriqué pour filer vers les étoiles. Craignant le retour au réel, les gens n'allèrent plus travailler. Ils se contentaient de grappiller quelques pièces pour louer le film, afin de ne pas abîmer leur copie. Hommes et femmes se mirent à coudre, confectionnant les tenues des personnages à partir de rebuts. La pauvreté devint gage d'une richesse intérieure, ce qui flatta la majorité. Naturellement, on combattit le duc de la stratosphère. Quelques courtiers enthousiastes provoquèrent un krach boursier. En coulant leurs employeurs, ils réalisaient une action morale puisque les trusts soutenaient Ordoc. Animatroland sortit indemne de la crise, ce qui rassura John Barnes. Il avait investi sa fortune dans les studios, comptant sur la suite d'Astrolabe pour tripler sa mise. Un soir d'octobre, l'écrivain parcourait les colonnes du Wall Street Journal quand le téléphone sonna. « John ?» Il ne reconnut pas la voix. « C'est Daryl Leyland. »« Comment allez-vous ? » demanda John. Le rire au bout du fil n'évoquait en rien les gloussements de Gerty. « Il faut que l'on se parle, » dit Leyland. « Au studio. »«
Quand ?»«
Ce soir. Maintenant. »
Un ton cassant, celui de Leyland s'adressant à ses employés. Barnes sentit tout de suite que quelque chose foirait.
« Très bien, j'arrive. »
Le père du lombric avait déjà raccroché. John fila sur la voie rapide aux commandes de sa Porsche. Les gigantesques panneaux publicitaires placés le long de l'autoroute annonçaient la date de sortie. Astrolabe 2, Ordoc's Revenge, le 31 octobre. Nuit d'Halloween, le service communication n'avait pris aucun risque. Déjà, les fans prévoyaient de camper sur les trottoirs pour être les premiers à découvrir le chef-d'œuvre. Exode massif ou rassemblement des forces vives pour contrer les légions de l'informe beuglant en THX, on s'attendait à d'énormes mouvements de foule qui encombreraient les artères des grandes villes et engloutiraient les villages. Sans faire halte au poste de contrôle, John Barnes se gara directement à sa place réservée. Comme la dernière fois, Daryl Leyland l'attendait en bout de table, à croire qu'il n'avait pas bougé. Un verre de malt trônait seul sur le plateau en onyx. Le mogul d'Hollywood était en bras de chemise, chose inconcevable pour qui le fréquentait.
« Ah, John, nous avons un problème. »«
J'ai cru comprendre. »«
Non, vous n'avez rien compris. Personne d'ailleurs n'a vu venir le coup. »
Leyland descendit son verre avec la fébrilité d'un toon. Une gouttelette ambrée perla à sa moustache.
« Dan Stuff est mort. Assassiné. »
John Barnes se laissa tomber sur un siège.
« Comment ?»«
Chez lui, d'une ignoble façon. Éventré. Ils ont écrit un message sur le mur avec son sang. Stuff est mort parce qu'il n'avait pas dessiné correctement Astrolabe. Pas comme il est vraiment. »
La voix de Daryl Leyland se brisa. Il parvint à se reprendre.
« Mais ce n'est pas le pire. Gerty Levert, ma création. Ils lui ont carré un Gerty gonflable dans le... »
Tandis que Leyland sanglotait, Barnes tenta de faire le point.
« Il faut faire une annonce, » dit-il. « Calmez les esprits. »
« Précisément, John. C'est pourquoi je vous ai fait venir. Vous passerez demain au talk show de Jay Leno. Toute l'Amérique suit son programme. »
Il ne pouvait se défiler.
« Très bien. Astrolabe 2 sort dans quelques jours. Dois-je annoncer qu'il n'y en aura pas de troisième ?»
Daryl Leyland brisa le verre entre ses doigts.
« Vous ne saisissez pas, pauvre con ! Peu importe les fichues suites, Astrolabe est devenu une réalité !»
Le présentateur vedette rejoignit John dans sa loge.
« Exceptionnellement, je reçois plusieurs invités sur le plateau. On va essayer de boucler en direct, mais ce n'est pas certain à cause de l'actualité. »
« Il se passe quelque chose de grave ?» Jay Leno remua sa mâchoire de néandertalien.
« Vous n'êtes pas au courant ? Le maire de Chicago a été pris en otage, ainsi que le conseil municipal. »«
Par qui ?» demanda John.
Un commando éco-terroriste, farouchement opposé à la vivisection. Le maire s'était déclaré sans avis sur la question.
Ah ? Comment se déroulent les négociations ?
Pas trop mal,
expliqua Jay Leno.
À ceci près qu'ils ont pelé vif deux élus devant les caméras de CNN. Les brigades d'intervention attendent l'autorisation du gouverneur pour donner l'assaut.
Un assistant fit signe à Jay Leno de passer au maquillage.
Une dernière chose, Mr. Barnes,
dit le présentateur.
Dans cette affaire, vous avez une putain de responsabilité. Les amis des bêtes se réclament de Pulsar, le chien d'Astrolabe.
John rejoignit le plateau encadré par des vigiles. Des gardes armés se tenaient face au public. Richard Gere, qui faisait la séquence d'ouverture, termina son interview en déclarant « J'ai trouvé mon karma dans Astrolabe ». L'écrivain prit place entre l'archevêque de Boston et un prix Nobel de physique. Jay Leno attaqua d'entrée en s'adressant au prélat.
« Les récents événements m'obligent à commencer par vous, monseigneur. Comment interprétez-vous le message d'Astrolabe ?»«
Toute pensée nouvelle peut être mal comprise. L'analogie entre Astrolabe et le Christ est certes un peu forcée, mais l'Église ne trouve rien à redire à son programme de paix et de tolérance. »
L'animateur du talk-show se tourna vers le public.
Tout le monde connaît ici Carl von Aschenbach et ses travaux sur la texture du réel. J'aimerais demander à mon prochain invité ce qu'il pense de la science-fiction.
Le prix Nobel tira sur sa jambe de pantalon.
En général, pas grand-chose. La terminologie scientifique d'Astrolabe n'a rien de rigoureux. Mais elle éduque l'oreille de l'enfant au vocabulaire du savoir et lui fait découvrir sa magie.
John se trouvait face au projecteur. Il avait chaud et Leno ne lui donnait pas la parole. Il tenta d'intervenir.
« Astrolabe est une invention, autrement dit rien !»
Un murmure de réprobation parcourut l'assistance. L'archevêque lui posa la main sur l'avant-bras et dit
« Souvent, par le passé, les prophètes n'ont pas saisi le sens de leurs propres prédictions. » Vous êtes simplement l'occasion de l'annonce, Mr. Barnes. Laissez à d'autres le soin de la déchiffrer. »
C'était incroyable. L'écrivain s'apprêtait à répliquer quand Jay Leno lui fit signe d'attendre. On lui parlait à travers l'oreillette.
« Cher public, nous devons interrompre notre émission pour laisser place à l'information. »
Les écrans de contrôle clignotèrent un live avant de passer le reportage. L'unité du SWAT était clouée sur le grand escalier, essuyant les rafales des mitraillettes Uzi. Un véhicule blindé de la police parvint à défoncer les portes de la mairie. Aussitôt, les preneurs d'otages surgirent munis de hachoirs. Indifférents aux balles, ils se jetèrent sur les forces spéciales. L'hélice de leur cagoule tournait fièrement. Barnes avait envie de vomir. Il quitta le plateau dans l'indifférence générale. Deux hommes en imperméable et costume gris l'attendaient face aux toilettes. L'hélicoptère les conduisit au Pentagone. Les agents de la NSA s'enfermèrent avec John à l'intérieur d'une chambre d'isolation. Le secrétaire à la Défense les rejoignit dans la structure de verre. Il ouvrit la menotte de son attaché-case et fit face au scénariste.
« Mr. Barnes, il faut nous dire pour qui vous travaillez. »
Pour Animatroland.
Les membres de la sécurité militaire affichèrent un rictus.
Pas de ça, John. N'insultez pas mon intelligence. Je veux dire, qui vous emploie vraiment?
La République islamiste unie?
Les indépendantistes tchétchènes? Parce que je dois vous le dire, c'est un sacré bordel!
Le secrétaire tira une map monde de sa mallette. Elle était constellée de points rouges.
Les sœurs de Rubia, en Irlande. Des cinglés féministes qui se cousent les lèvres pour honorer la virginité de la princesse.
Les zélateurs du Gant, au Soudan. Déclarés apostats par l'orthodoxie astrolabienne lors du concile Sci-Fi de Baltimore.
Les cosmunistes ukrainiens qui cherchent à réaliser l'international universel. Ils sont tous prêts, John. Parés pour l'action. La sortie prochaine du second film catalyse leur énergie. Alors je vous le demande une dernière fois. Quel état voyou se tient derrière tout ça?
parlez sans crainte, rien ne filtrera de cette pièce. » John défit son nœud de cravate. Il hésitait entre rire ou pleurer. « Tout est sorti de ma tête. J'ai eu l'idée d'un coup, comme un flash. »«
C'est bien ce que je pensais, » dit le secrétaire à la défense. Pointant un automatique, il descendit les agents. Puis, relevant sa manche, il fit apparaître une marque sur son avant-bras, imprimée au fer rouge.
« Le triskel magique, John, symbole de l'enchanteur. Vous avez une sacrée veine d'être tombé entre les mains des Galdernautes. »
Le président patientait dans le bureau ovale en compagnie des membres du gouvernement. John se tenait en retrait sous le portrait de Washington. À minuit, le directeur de la CIA pénétra dans la pièce. Il enfourna directement le DVD dans le lecteur.
« La copie provient des studios Animatroland. Notre contact sur place l'a faite à partir du master. »
Le président n'écoutait pas, attentif au générique que rythmait la partition de Sakamoto. Le titre apparut « Hordox Revenge ». L'état-major fixait l'écran. Après sa défaite, le duc de la stratosphère avait été exilé sur son monde, mais en secret, il réarmait ses légions de l'informe. De gentils observateurs envoyés en ambassade disparaissaient à jamais. À la demande de leur reine, d'un film à l'autre, Rubia avait obtenu une promotion. Les sages de la contrée siégeaient à la table des certitudes. L'enfant des étoiles devait reprendre sa quête. Pas Bagel, Astrolabe acceptait. Assisté de Galder, le président soupira d'aise, il traversait les marais de la pestilence, jetant parfois un bâton à pulsar qui immanquablement s'enfonçait dans les sables mouvants. Astrolabe finissait par botter les fesses du méchant dans le temps imparti. Soit 2h15 dans la version cinéma, à quoi il faudrait rajouter plus tard les coupures de pub. L'écran s'éteignit automatiquement. L'amiral qui se tenait près de la porte rétablit l'éclairage. Au signal, tous remontèrent leurs manches. John compta les triskels. Dans un silence religieux, trois magistrats de la Cour suprême aidèrent le président à revêtir sa cagoule stellaire et la cape d'invulnérabilité.
« L'heure est venue !» dit ce dernier.
Le secrétaire à la défense ouvrit une nouvelle mallette. Il en sortit le gant de la main. L'élu du peuple l'enfila avec dignité en commençant par le majeur. John se pencha pour examiner la valise. Elle contenait un tableau de commande où clignotait un unique bouton rouge.
« Qu'allez-vous faire ?»«
Notre devoir, » répondit le président. « Le sens du film est clair. Il faut arrêter Hordock. »«
Mais il n'existe pas !»
s'exclama Barnes. Les membres de l'état-major sourirent d'un air entendu.
« C'est ce qu'il cherche à nous faire croire. Le duc de la stratosphère est malin. »
John Barnes tenta de se redresser. L'amiral le maintint sur son siège.
« Écoutez, » dit l'écrivain, « si l'on s'en tient au message, Astrolabe ne peut faire du mal à son prochain, y compris pour une bonne cause. »
« Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis venu apporter le glaive »,
rétorqua l'amiral.
« Vous êtes de bonne foi, mon cher John, mais les apôtres sont toujours les premiers à trahir l'enseignement reçu. »
Président et secrétaire introduisirent leurs clés. Le tableau de commande s'activa aussitôt. John ne pouvait le croire.
« Enfin, merde ! » cria-t-il. « Utilisez cette foutue hélice pour vous ventiler l'esprit ! Vous vous apprêtez à déclencher l'apocalypse !»«
Précisément, John, connaissez-vous la signification véritable de ce mot ? Il signifie « révélation ». Une vérité dévoilée par vous. »
John Barnes essuya la sueur qui coulait sur son front. Rien ne pourrait les arrêter.
« Pourquoi suis-je ici ? »
demanda-t-il.
« Pour raconter. Quelqu'un doit conserver la mémoire de cet instant historique. »
Le gant de la main s'abattit sur le bouton. Il se trouvait sur UN Plaza, là où se dressait auparavant l'immeuble des Nations Unies. L'esplanade était recouverte de décombres. Les survivants avaient fait le voyage depuis la Floride ou la Californie, de plus loin parfois, pour rejoindre New York. Pas la moindre rancune entre les différents peuples, toutes les particularités politiques étaient abolies. Ils cherchaient simplement à se rassembler au point zéro. C'est ainsi que l'on désignait le cœur de la contrée, patrie d'Astrolabe. Tous, pour peu qu'ils aient le cœur pur, étaient les bienvenus. Une femme qui dissimulait ses ulcères derrière un sari offrit à John une poignée de biscuits. L'écrivain les accepta avec gratitude. Ils étaient secs et fades, mais l'époque n'invitait pas à faire le difficile. John mâcha longuement, en priant pour que ses dernières dents demeurent en place. Au moins lui en restait-il. Ses cheveux étaient partis par poignées au premier jour de la guerre, quand les légions de l'informe avaient répliqué. Incarnant son corps astral dans différents chefs d'État, Ordoc régnait alors sur les nations. Mais tout cela appartenait au passé. Renvoyé dans sa stratosphère, le duc n'était plus qu'un mauvais souvenir. Il fallait cependant rester vigilant. C'est pourquoi les sages trônaient aujourd'hui à la table des certitudes. John se fraya un chemin à travers la foule pour se rapprocher du meuble en formica. Il parvint au deuxième rang, juste derrière les éclopés qui tentaient de saisir la nappe. L'un d'eux s'affirma guéri, ce qui ne surprit personne. L'écrivain aurait aussi aimé toucher le linge pour calmer ses diarrhées. On ne sait jamais. Il avait assisté à bien plus étonnant. Le plus âgé des galdernautes aborda la question du jour. On ne ramassait pas suffisamment de chiens pour nourrir la contrée. En bon compagnon, Pulsar n'attendait pourtant que d'être dévoré. Le problème venait des chasseurs qui oubliaient de passer la cape d'invulnérabilité avant chaque battue. Ils avaient l'esprit simple. C'est pourquoi on leur interdisait la cagoule. Tout le monde s'esclaffa, y compris John. Au terme de la séance, un astrolabien qui avait l'âge du héros leva les couleurs. Le drapeau claqua fièrement au vent chargé de cendres. Elle ne parvenait pas à souiller l'hélice d'or couchée sur fond azur. Symbole d'infini, éternité d'Astrolabe. L'assemblée se prépara à entonner l'hymne. Une fillette glissa sa menotte dans la main de John. Elle n'avait plus de doigts, excepté le majeur. Le cœur des participants entama le chant sacré.
Astrolabe, tu es sorti de ton laboratoire à l'état de prototype. Astrolabe, tu traverses l'univers d'acier et de verre, tel est ton génotype.
Homer n'avait peut-être jamais existé. On ne savait trop rien de la vie de Shakespeare ou de Cervantes. John Barnes finirait par être oublié. Pour ses compagnons rassemblés autour du feu, John n'était que John, un conteur citant le prophète Barnes. Seuls restaient les œuvres, des éclats de génie tombés des étoiles.
Astrolabe, tu es sorti de ton laboratoire à l'état de prototype. Astrolabe, tu traverses l'univers d'acier et de verre, tel est ton génotype.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Permettez-moi de vous annoncer la naissance d'un nouveau podcast en français, une émission faite maison, d'ores et déjà destinée à marquer son temps. Ça s'appelle Le Palais des Déviants, et c'est produit par le docteur Laurent Kessy et le professeur Étienne Barillier. Il manquait à la francophonie un podcast indépendant de ce type, croyez-moi. Nos deux amis y parlent de cinéma, de littérature, de BD, de musique, bref, de toutes les bonnes choses qui font du bien à l'âme, et ils le font avec passion et érudition. Les fonds musicaux concoctés par le Doc Kessy sont à tomber par terre. Au programme de l'émission, du Lansdale qui grince, du Johnny Cash qui laboure, des zombies qui vous grignotent le cervelet, du Philippe K. Dick pour vous faire chavirer et une foule d'autres choses. Le tout dans un ton super décontracté, en mode discussion à bâton rompu, modèle qui n'est pas sans rappeler le cultissime Starship Sofa des premiers jours. Vous l'aurez compris, ce podcast est une pure merveille. Le troisième épisode devrait arriver bientôt, si je ne me trompe pas. Je suis déjà complètement accro et je ne peux que vous le recommander. On s'y abonne en deux clics via iTunes ou n'importe quel autre agrégateur. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.palaisdesdeviants.fr. N'hésitez pas à m'écrire à lucas@utopod.com. Pour un producteur de podcast indépendant, recevoir des mails des auditeurs, c'est absolument vital. Et puis parlez d'Utopod autour de vous, amenez les gens à s'abonner sous la menace, terrorisez vos proches pour qu'ils fassent des dons. Mais bon, restez gentils quand même. Et n'oubliez pas le site, et le forum particulièrement, il vous attend, il est là pour vous, alors profitez-en et postez-y autant de messages qu'il vous plaira. Vous pouvez également laisser des commentaires aux articles de blog, bref, n'hésitez pas à alimenter la bête. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite plein de bons livres, de belles histoires, et vous dis au mois prochain. Bye bye!